et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et comme vous le savez, je suis Marie. J'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde, une amie à moi, pour un nouvel épisode. On a décidé de vous parler d'un sujet qui nous intéresse, qui est assez vaste, mais qui est plutôt d'actualité et qui nous concerne tous et toutes. Il s'agit du rapport à la féminité. C'est très large dit comme ça, mais vous allez mieux comprendre de quoi on veut parler. On veut parler du rapport au corps, de ce que les médias disent de faire et de comment on peut se détacher de certaines choses, apprendre à devenir une femme. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi ? Bonjour Mathilde.
Salut Marie.
Il faut prévenir quand même que la qualité n'est pas aussi bonne que d'habitude parce que tu es chez toi et que je suis chez moi et qu'on est à distance. Donc, on a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet ensemble, la femme.
Avec un grand F. Là, tu vois, je me disais encore ce matin, on commence déjà à recevoir plein d'injonctions à comment on va pouvoir faire pour ne pas prendre trop de kilos pendant les fêtes et ensuite perdre les éventuels kilos pris tout en profitant de notre famille, des repas, nanana. Et je me disais, c'est quand même dingue qu'on nous foute jamais la paix. Parce que t'as Noël, ensuite t'as la galette, ensuite t'as Pâques, ensuite t'as les barbecues, ensuite rebelote Noël. Enfin, et en fait, ça s'arrête jamais. Et toute l'année, on nous dit contrôlez-vous, ne prenez pas de poids, mais profitez parce qu'une femme qui ne profite pas est une femme chiante. Et je me disais,
c'est toujours pour les femmes d'ailleurs cette injonction.
En plus, c'est vrai que t'auras quasiment jamais, messieurs, faites attention à ce que vous mangez pendant les fêtes.
Mais par contre, prenez plaisir. Les hommes, ils prennent plaisir, ils lèvent le verre au bon vin, machin. J'ai pas fait trop attention encore, mais c'est vrai que ça revient déjà maintenant. Et moi, ce que j'ai surtout vu, c'était qu'est-ce que vous allez préparer pour votre famille, ça, tu vois. C'est quelque chose qui me choque plus, en tout cas, que le côté perdez du poids après les fêtes. Il y a plutôt le préparer le summer body et faites à bouffer pour votre famille, parce que de toute manière, la femme, c'est celle qui fait la bouffe. C'est elle qui doit faire le bon menu, qui va aller bien, comment elle va s'habiller. 40 tenues à sortir avec les bons trucs.
Comment assortir ton pull avec le foie gras?
Voilà.
C'est très, très accoleur comme titre.
C'était un peu bizarre, je pensais pas à ça, mais pas mal. La société donne un ordre à la femme sur comment être. Et en fait, ça démarre quand on est très jeune. Enfin, toi, tu te souviens de quand t'as commencé à avoir des injonctions? C'était quoi les injonctions, toi, pour être une femme quand t'étais ado? La femme qui était ton repère, c'était encore ta maman?
Moi, je crois que la première fois où je me suis dit c'est pas juste parce que comme je suis une fille, on me fout pas la paix, c'est j'avais 7 ans et c'était à la plage. Et en fait, une amie de ma mère m'avait dit « Mathilde, à ton âge, on se balade plus les seins à l'air et on fait plus pipi comme ça sur la plage. » Bah, pourquoi ? Enfin, Antoine, donc son fils qui est à mon âge, il faisait pipi contre un rocher et il était torse nu, donc pourquoi pas moi, tu vois ?
Ouais, il se balade la claquette à l'air, mais nous...
Je m'étais dit non, mais enfin, c'est vraiment pas juste.
Ouais, je vois. Mais moi, je crois que c'était, ça devait être à peu près au même âge où tu commences à te rendre compte que être une fille, il faut être propre, il faut être jolie, il faut avoir mis des barrettes, etc. En fait, c'est comme si il fallait en permanence être mignonne. Je dis pas que c'était important, mais il fallait faire attention à ça. Il fallait faire attention à avoir les cheveux propres, à être jolie, à être mignonne, à avoir les dernières baskets. Bon, à l'époque, c'était ça, mais...
Je lisais un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle Du côté des petites filles, qui expliquait que en fait les petites filles, on leur fait beaucoup de compliments sur leur physique, on va beaucoup leur dire oh t'es mignonne, t'es bien habillée, t'as une jolie robe, t'as des jolies chaussures, alors que les garçons vont beaucoup plus mettre en valeur les activités qu'ils font.
C'est
par
ça,
exemple
c'est,
dire il oh tu fais bien papa. Du vélo, oh t'as bien tiré dans le ballon, voilà tu aides ton papa, tout ça, alors que les petites filles on va toujours les ramener à comment elles sont physiquement.
Ça me fait penser d'ailleurs, il y a quelques années de ça, mon oncle faisait sa liste de cadeaux, je crois, pour ses garçons, et le plus petit des deux, qui avait 4 ans, avait demandé une dinette.
D'accord.
Et la réaction de ma grand-mère, ça avait été un truc du style une dinette pour un garçon, n'importe quoi. C'est des petites choses comme ça. Bon, ça, j'étais beaucoup plus adulte et à même de le voir, mais par rapport aux fêtes de Noël, c'est vraiment drôle ce que tu dis, parce que j'ai baigné dans un milieu quand j'étais petite où les fêtes de Noël étaient la caricature type de l'inégalité entre les hommes et les femmes. J'espère que mes proches concernés ne m'écoutent pas et ne me...
Coucou papy, coucou mamie.
De toute manière, j'assume ce que je pense et ce que je dis. Je sais que je vais faire sourire ma maman, parce qu'en fait, c'est à travers, je pense, les regards de ma maman outrée par certaines obligations familiales de la belle famille, où en fait il était d'usage que pendant que les hommes ouvraient les huîtres le soir de Noël, donc le 24 au soir, pendant que les hommes ouvraient les huîtres et buvaient au bon coup le vin blanc, les femmes allaient à la messe avec les enfants.
Ah oui,
et
c'est en fait, très vieille France.
Et en fait, comme Noël, c'était une grande famille, on se réunissait. Pendant ce temps que les femmes et les enfants étaient à la messe, les papas mettaient les cadeaux sous le sapin. Père Noël était passé pendant ce temps, c'était fou. On revenait, et alors là, on avait droit à la grande tablée, le gigot entre les haricots verts, entre les ragots de Pierre-Paul Jacques et la bûche à la crème glacée. Et c'était en fait toutes les caricatures de l'inégalité des femmes qui ont préparé la nourriture, des hommes qui ont ouvert les huîtres et qui ont servi le vin. Et en fait, je me rappelle que ma mère, qui était donc la belle-sœur, avait rapidement dit, écoutez, moi, la messe, j'en ai rien à carrer, vous y allez. Enfin bon, elle s'était conformée un petit peu au truc pendant quelques temps, parce que bon, fallait se faire apprécier de la belle famille. Mais à un moment donné, elle avait dit, fuck, enfin moi je reste, c'est pas mon truc. C'était pas une question de pas croire ou croire ou autre, c'était non, j'ai pas envie. Et ça avait été super mal vu. Et moi, rapidement, moi aussi, j'avais trouvé ça particulièrement chiant de chanter le Divin Enfant. Et j'avais voulu rester aussi avec les mecs, parce que c'était quand même vachement plus drôle de se bidonner à boire du vin blanc derrière les huîtres. Et c'était d'ailleurs le moment où il y avait toutes les blagues de cul possibles, inimaginables, sur « Ah ouais, on va bien les farcir, les farces ». Et toutes ces petites choses-là, c'est des détails de l'enfance que tu accumules sur des... Je pense que c'est ça, en fait, qui nous construit. Je sais pas toi, mais c'est plein de petites images, des petits détails, des petites réflexions, les petits « Ah, elle est jolie. Ah, oh, il a bien fait son travail, il est bon à l'école. »
De toute façon, le genre... c'est construit par la société. Et tu vois, c'est toujours le fameux « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. Mmh. Tu deviens ce que la société te conditionne à être. Et la société, c'est ce qui est extérieur à toi, donc les médias, tout ça. Mais c'est aussi ta famille, forcément, parce que de toute façon, sa famille, on y vit à minima de sa naissance à ses 15-16 ans, 18 ou plus, tu vois. Et forcément, ça nous construit. Après, moi, je sais que j'ai pas forcément eu cette impression, tu vois, que ma famille représentait vraiment des clichés de la répartition homme-femme, même si, voilà, j'ai une maman qui s'occupe de ses enfants, qui, du coup, a arrêté de travailler, même si je sais, tu vois, que c'est ma maman qui cuisine et mon papa qui fait le feu et qui bricole. Mais quand j'étais petite, j'avais pas du tout ce truc de c'est saoulant ou en fait, c'est bien après, où j'ai vraiment questionné ça quand j'ai été confrontée à d'autres choses, tu vois, à d'autres représentations de la féminité, à d'autres manières d'être une femme, en fait.
Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'à un moment donné, pareil, ça a mis du temps à ce que ça fasse sens et à ce que ça fasse mais merde, quoi. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça et pourquoi moi, est-ce que je peux pas aller couper du bois avec papa? En fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours eu le droit et l'opportunité de devenir ce qui on est. Mmh. Donc, j'ai pas du tout été soumise à des stéréotypes de conformité, parce qu'il y a des familles où clairement c'est à se taper la tête contre un mur, t'as envie de dire mais meuf, t'as 35 balais, t'as une petite fille et t'es quand même en train de reproduire des schémas contre lesquels t'es censé te battre, enfin, de genre, de faire des différences entre son petit garçon et sa petite fille. Mais en fait, le truc, c'est que malgré toute la bonne volonté du monde, je pense que même moi, demain, si j'ai un petit garçon ou une petite fille, j'étais tellement conformée dans des images que c'est quand même super difficile de s'en détacher. Et aujourd'hui, quand je parle avec mon père, surtout mon père des inégalités hommes-femmes, il est d'accord avec moi, mais il y a plein de choses sur lesquelles le discours peut pas passer parce qu'il y a un écart tellement grand, qu'il a tellement vécu dans des systèmes où la femme ne parlait pas. Elle n'avait pas forcément le... C'est pas qu'elle avait pas le droit, c'est que ça ne se faisait pas, en fait.
Mais, mais c'est hyper ancré, en fait. Enfin, c'est très difficile de sortir de ça parce que c'est un système, le patriarcat, c'est un truc qui est vieux de plusieurs millénaires, donc très ancré.
Et alors du coup, là, pour revenir à notre truc, parce qu'on s'éloigne, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du patriarcat et est-ce que tu penses que ça a une influence sur comment la femme est montrée encore aujourd'hui dans les médias, genre les magazines, genre la télé, les pubs? Pourquoi est-ce que dans les pubs, c'est toujours une nana qui tient le moulinex, alors que pourtant c'est décrié? Et ben, on continue d'utiliser la femme dans les pubs de cuisine ou de recettes, parce que de toute façon, c'est la femme qui fait à bouffer. Enfin, beaucoup en tout cas, moins peut-être, mais beaucoup.
Ben, en fait, je pense que tu vois, il y a eu vraiment une reproduction et qu'au fur et à mesure, tu reproduis les modèles sans vraiment en avoir conscience. Et c'est aussi ce truc de instinctivement, tu vois, une petite fille, tu vas lui offrir une poupée. Et moi, tu vois, j'y suis confrontée par exemple avec ma filleule qui a presque 5 ans. Je demande à sa maman ce qu'elle veut pour Noël et elle me dit Alba voudrait bien une chaise pour sa poupée. L'année dernière, c'était Alba voudrait bien une poupée. Et du coup, tu vois, tu te dis, c'est une petite fille, elle aime les poupées. En même temps, si elle aime les poupées, je vais pas ne pas lui acheter de poupée par principe parce que si elle aime ça, elle a quand même le droit de jouer avec une poupée. Et malgré tout, derrière, ça me dérange parce que je me dis, est-ce qu'elle aime les poupées parce qu'on lui a donné que des poupées, ou est-ce qu'elle aime les poupées parce que vraiment elle aime les poupées? Et en fait, je pense que de toute façon, c'est des questions auxquelles malheureusement on peut pas vraiment avoir de réponse. C'est des trucs qui sont tellement accrochés depuis une éternité que c'est hyper difficile de distinguer en fait ce qui vient de toi et ce qui vient de la société.
Le truc, c'est que c'est tellement ancré que du coup, Alba, aujourd'hui, elle a 5 ans. Dans 10 ans, elle en a 15. Comment est-ce que tu peux arriver à te détacher? Je vais partir sur un exemple qui n'a rien à voir, mais dans 10 ans, peut-être qu'elle va se dire, est-ce que je m'épile ou est-ce que je m'épile pas? Et ça, tu vois, cette question de l'épilation, c'est, je pense, à un moment donné, un des premiers trucs sur lesquels t'exprimes vraiment ou non ta féminité. Enfin, je sais pas comment, c'est hyper dur, c'est horrible ce que je dis, mais quand j'avais 14-15 ans, mes copines s'épilaient les jambes et rapidement, la question vient de, il y a piscine, il faut être épilée. Enfin, genre, c'était comme si c'était une suite logique de la séance de la piscine parce qu'on avait piscine à l'école ou au collège, et que jusqu'à un certain moment tu te poses pas la question, et puis il y a un moment où il y a le maman, il faudrait que tu m'achètes des bandes de cire pour m'épiler. Comment est-ce que ça se fait qu'à un moment donné ça soit quelque chose de normal? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu normal d'enlever les poils des femmes et de garder ceux des hommes? Et comment ça se fait qu'on s'est mise d'un coup à avoir honte de lever les bras parce qu'il y avait des poils dessous, tu vois? Enfin,
pour le coup, je sais pas, tu vois, pourquoi on a décidé d'enlever les poils des femmes. Enfin, j'ai quelques idées, mais je pense que la question est très vaste. Mais par contre, tu vois, de pourquoi on le fait, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment la force du groupe. J'ai commencé à m'épiler assez tard parce que pour plein de raisons ma puberté a été pas mal ralentie et bah, du coup j'ai pas eu des poils très tôt, donc j'ai commencé à m'épiler tard vers 17-18 ans parce que bah, mes petites sœurs s'épilaient, que ma maman s'épilait, enfin s'épile toujours, et mes petites sœurs aussi, et que du coup je me disais effectivement c'est normal de faire ça. Et en fait là maintenant il y a un peu plus d'un an, j'ai arrêté de m'épiler juste avant les grandes vacances 2017 et je me suis dit fuck, je m'épile plus. Et pour le coup tu vois, alors mes poils sur mes jambes, disons que je les aime pas particulièrement, mais tu vois le fait de lever les bras et d'avoir des poils en dessous, et ben c'est un truc, je me dis ouais, je suis une meuf badass qui assume ses poils. Et tu vois ça, non mais en fait je pensais pas, mais vraiment c'est un truc que j'ai trouvé empouvoirant, tu vois, de me dire bah ouais fuck, wow. je m'épile pas parce que j'ai pas envie et c'est mon corps et c'est mon choix et merde quoi.
Ouais je comprends, mais pourtant moi je me rappelle l'effet groupe, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a aussi le côté où ben j'ai toujours vu ma maman avec son petit épilateur, de temps en temps je la voyais passer l'épilateur vite fait sur ses jambes parce que c'était bientôt l'été ou quoi, ou parce que c'était le printemps et qu'elle allait mettre un pantacourt, et en fait le truc c'est qu'après il y a eu l'effet groupe, et après il y a eu une période aussi où j'ai été dans l'extrême où je me suis dit que de toute manière pour être une, enfin j'en suis venue à un point en fait où je ne comprenais plus ce que c'était être une femme, etc. Et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était pour moi être une femme, parce que je correspondais pas entre guillemets aux idéaux de la minceur, ou en tout cas d'avoir des formes là où il faut, bien où il faut, parce que j'ai été formée très tard aussi et je ressemblais à un bébé jusqu'à très tard, et ça m'avait tellement complexée parce que ce regard de l'autre, parce que les critiques, parce que les autres savaient que ça me touchait. Du coup, je suis passée dans l'extrême inverse à vouloir être cette femme qui était vendue par les médias. Et c'est là que les médias ont été dangereux. Enfin, je dirais pas dangereux, mais où ont été la source d'inspiration. Et où du coup, je suis passée dans un extrême à me dire bah, que c'est ça, être une femme. Je vais le jouer à fond. Et je vais être sexuelle, sensuelle et complètement épilée, à porter des strings. Bref, je vais pas entrer dans les détails parce que là, je me dis, qui c'est qui peut écouter ça? Mais du coup, stop. Je veux dire, j'ai plus honte. Je me dis, bon, bah, ça fait partie de mon histoire. Et ça va sûrement contribuer à construire la femme que j'ai envie d'être, parce qu'être passé dans des extrêmes, tu finis par trouver ce qui te correspond vraiment. Mais c'est vrai que du coup je me suis fiée à ce que je voyais, et ce que je voyais c'était quoi? C'était des femmes lisses dans les magazines qui n'avaient pas de poils, qui faisaient du 34-36 quand elles étaient en forme, qui avaient des seins mais pas trop, étaient belles mais pas trop, étaient intelligentes mais pas trop, parce qu'il faudrait pas faire ombre sur l'homme, donc il faut quand même être drôle et un peu concon en faisant des petites blagues genre tu comprends pas les choses. Et je me suis complètement mise dans ce moule. J'ai fait la moule, mais alors bien comme il faut. Bon, il s'avère que ça rend pas heureux du tout, au contraire, et ça fait bien plus criser qu'autre chose. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, et c'était il y a presque 7 ans, il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé, et pourtant, il y a quand même des trucs qui bougent. Et c'est ce que tu me disais. Tu me disais qu'il y avait un mouvement d'acceptation du corps, et par-delà cette acceptation, il y a encore une injonction à être forcément comme ça ou comme ça, et de forcément accepter son corps, et de forcément s'aimer, et de forcément se libérer des carcans, mais être quand même une bonne épouse. Et une bonne mère, parce que faut pas déconner. Et en fait, on sait pas, c'est compliqué, je trouve.
Ouais. Bah après, par rapport au mouvement dont tu parles, du coup, j'imagine que c'est le body positive, en tout cas, ce qui peut s'en approcher. Mais après, je pense que ce mouvement, il est très mal connu et au niveau de ses revendications, il est pas du tout compris, parce qu'en réalité, c'est un mouvement qui est extrêmement politique et qui est pas du tout de l'ordre de injonction à s'accepter, mais qui est plutôt de l'ordre de laisser nos corps tranquilles, laissez-nous être qui on est comme on veut, tu vois. De toute façon, on est toujours soumis à des injonctions. Soumise surtout à des injonctions complètement contradictoires. Après, moi, je sais que pour le coup, ce qui m'a vraiment aidée à accepter le fait que j'étais une femme et à me penser femme et à me définir comme une femme, c'est justement le féminisme, le militantisme et ces milieux, tu vois, grâce auxquels j'ai compris en fait qu'il y avait plein de femmes différentes et qu'il n'y avait pas une femme, mais vraiment des femmes et donc du coup des féminités, tu vois.
Le fait que ce militantisme et ce côté féministe t'inspire, le fait, ce qui me dérange, je m'en mets à me poser la question de dans quelle mesure le féminisme, c'est pas finalement faire l'inverse par opposition. Dans un monde idéal, il faudrait même pas qu'il y ait ces questions qui se posent là, parce qu'elles ne devraient pas se poser. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui bouge, mais le problème qui est, c'est que il faille passer par des rébellions pour qu'on se mette à se poser des questions. What?
Ah ouais, mais ça après, enfin, je suis d'accord avec toi, tu vois, que dans un monde idéal, ce serait super chouette, ouais, qu'on n'ait pas besoin de passer par tout ça. Mais le fait est qu'on ne vit pas dans un monde idéal et qu'on est obligé, en fait, de passer par là. Et tu vois, c'est un peu aussi toute cette question de est-ce qu'on est obligé de faire des lois pour augmenter la proportion de femmes dans les différents milieux de la vie publique? Parce que parce qu'en fait, on a tellement été... Oui, parce qu'on pourrait dire, tu vois, non, mais il faut que les choses se fassent, on n'a pas besoin de mettre l'accent 100% dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais on a été tellement conditionnés en fait à penser qu'on valait rien, qu'on n'était pas faite pour tel ou tel métier, qu'on n'était pas faite pour telle ou telle carrière, que ben à un moment il faut quand même qu'il y ait cette espèce d'impulsion, tu vois, qui dise mais si meuf t'as le droit de faire ça.
Il y en a beaucoup qui vont dire non mais attendez, si on commence à mettre des lois pour soutenir les femmes, déjà ça veut dire qu'il y a une inégalité et ça sous-entend, ça met le doigt sur l'existence d'un pied d'égalité différent. Si on passe pas d'abord par des lois où on légifère et où on dit il y a un truc qui se passe mal dans la société aujourd'hui, on est obligé de passer par des lois, même quitte à souligner le problème et quitte à le mettre un peu en avant momentanément. En fait, le temps que ça va prendre pour déconstruire des années et des centaines d'années de patriarcat, comme tu le dis, et d'injonction de la femme, ben, je pense qu'effectivement, ça doit passer quand même par de la force. Et après, pour revenir sur ce que tu disais sur le body positive, je pense aussi que le problème qu'il y a sur ce truc-là, c'est qu'il y a des courants qui s'approprient le body positivisme, alors que non, comme tu me disais sur les réseaux sociaux, le côté aimer son corps par le sport, être une fit girl, etc., où tu vois les nanas, voilà, c'est ça aussi, je me pose beaucoup la question, les filles qui se prennent en photo, les filles qui font beaucoup de sport, etc., qui sont en legging et qui mettent leurs fesses en arrière-cassé, et ben il y a une part de moi qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'elle se met en avant comme ça, qu'elle se montre, ça me met mal à l'aise, c'est pas comment réagir en fait. J'ai pas d'idée claire sur ça, je sais pas si t'en as une, mais.
Bah, après, moi je pense, tu vois, qu'il y a vraiment une réappropriation du body positive et qui est pas forcément. Bah, qui est très commercial déjà. Tu vois, ce truc de, on va te dire, apprenez à aimer votre corps et ensuite on va essayer de te vendre un programme pour perdre du poids, prendre du muscle ou je sais pas quoi. On va te dire, apprenez à aimer votre corps et ensuite on va te vendre des crèmes anti-cellulite. T'es là, est-ce que je peux pas juste aimer ma cellulite sans acheter des crèmes qui coûtent 1 milliard d'euros?
Ouais, c'est ça.
Par rapport au fait de mettre son corps en avant. En fait, je pense qu'il y a une influence de la société là-dedans. Tu vois, j'avais eu un débat une fois avec un fit boy, pour le coup, avec un mec sur Instagram qui disait, oui, les filles, franchement, respectez-vous, arrêtez de mettre des photos de vous à poil pour faire des likes et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ça fait des likes? Pourquoi une photo d'une meuf en brassière et en legging fait plus de likes qu'une photo d'une meuf en pyjama tenue coucoune du dimanche, tu vois?
Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des filles qui prétendent être assumées et s'aimer, etc., et prôner des, on va dire, des modes de vie pour être belles et bien, tu vois? Et du coup, je me dis, mais attends, meuf, tu dis un peu l'inverse de son contexte. Enfin, tu parles dans deux trucs différents et je pense qu'en fait c'est parce que ces personnes-là sont pas très honnêtes avec elles et dans le sens où c'est même pas facile pour n'importe qui d'être forcément influencée et je suis la première à douter à cause des magazines que je vois passer, même si j'essaie d'avoir le plus de recul possible et que je pense qu'on fait partie d'une partie de la population qui avons la chance d'avoir quand même un minimum d'accès à la culture, bah, je me dis que même les personnes qui peuvent avoir ce discernement et qui se posent des questions, je suis la première à faire quand même un minimum attention quand je sors de chez moi et encore maintenant, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je pouvais pas sortir de chez moi sans être maquillée et sans avoir lissé mes cheveux. Et c'est marrant, ça me fait sourire, ça me fait pas pitié, je rigole, mais je me dis, mais maintenant, je peux sortir de chez moi limite en pyjama. Ah, je crois que je m'en fous, mais vraiment, genre, je m'en fous. Et ça, pourtant, il y a des femmes qui, adultes, ne sont pas capables de le faire.
Oui, quand t'es enfant, t'es plus facilement influençable, mais quand t'es adulte, t'as quand même plusieurs années d'influence derrière toi, tu vois.
Ouais, si tu t'es pas posé les questions, effectivement, ça continue à s'ancrer et ça.
Bah, et puis même si tu t'es pas posé les questions, c'est quand même un truc qu'on te matraque tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, tu sais, c'est le principe des messages subliminaux, quoi. T'as beau être un peu au courant et ne pas vouloir forcément, si on te répète toute la journée, au bout d'un moment, tu poses quand même des questions et puis tu te dis, bah merde, ouais. Ouais, c'est vrai que je corresponds pas trop, machin.
Et puis t'as pas le choix parce que, bon, là, actuellement, présentement, toi t'es étudiante et moi pour l'instant, tout de suite, maintenant, je travaille pas exactement. Mais c'est vrai que quand tu vas au travail, tu te retrouves vite à pas avoir le choix et à faire ce qu'il faut, que ça soit au niveau vestimentaire, au niveau d'être maquillée et tout. Si tu débarques au travail le matin, pas maquillée et tout ça, machin. Mais c'est vrai quand même que quand c'était le cas des mecs qui arrivaient complètement pas en forme parce que bourrés de la veille ou je sais pas, ou fatigués, et ben il y avait pas de remarques qui étaient faites ou en tout cas, même moi, je faisais moins gaffe que si j'avais vu ma collègue féminine être dans un état lamentable. Donc ça veut dire que même moi, en prenant du recul, j'aurais été plus facilement, enfin, et j'étais plus facilement à dire, punaise, t'es même pas maquillée ce matin, elle a les cheveux complètement crades, alors que je l'aurais peut-être pas vue chez son homonyme homme. Mm. Et du coup, rien que ça, de voir cette réaction que j'ai à l'intérieur de moi-même, ça m'auto-énerve. Genre, je me dis, mais ah non, je suis un produit victime de la société.
Mais oui, mais ça, c'est la grande, je sais plus, je crois que c'est un livre qui s'appelle Bad Féministe, qui explique que justement, la grande réussite du patriarcat, et globalement, tu vois, de tous les systèmes de discrimination, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les personnes qui sont opprimées se retrouvent à être les gardiennes de l'oppression, tu vois.
C'est
et
ça,
typiquement,
mais en fait...
par exemple, moi je sais que les injonctions à l'épilation que j'ai reçues, elles viennent, on va dire, à 100% de femmes, tu vois.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais entendu dire, les femmes, leur pire ennemi, entre guillemets, c'est pas des hommes qu'il faut avoir peur. Enfin, pas que, mais c'est des autres femmes. Dans le sens où c'est les femmes qui sont les plus virulentes et les plus méchantes, parfois entre elles. Mais enfin, je pense qu'on est quand même aussi les premières à pouvoir changer les choses vis-à-vis des autres femmes, et vis-à-vis des filles, et vis-à-vis de ses amis, etc. Et qu'il n'y a que par qui change les choses et qui choque un peu au départ qu'on peut peut-être changer au plus grand nombre, je sais pas.
Bah, je suis d'accord avec ça. Par contre, je pense que c'est dangereux, tu vois, de dire que les pires ennemis des femmes sont les femmes. Parce
ouais, non,
que si, en fait, si les femmes fliquent les autres femmes, c'est justement parce que on a tellement été soumise à ces pressions et à ces injonctions qu'on les a intériorisées.
Oui, c'est ça.
Et c'est d'ailleurs, c'est la force, tu vois, d'un système oppressif, c'est que les gens se surveillent entre eux, tu vois.
C'est ça. Mais ça, mais on en vient à des dictatures, des situations où tu as des oppressés et des oppresseurs. Bah, finalement, les oppressés finissent par devenir des opprimants.
Bah, c'est ça, tu sais, c'est comme dans le bouquin de George Orwell, là, 1984. La société, elle tient plus grâce à la peur qu'ont les individus et à cette figure qui, en plus, dont on n'est même pas sûr qu'elle existe. En vrai, il y a personne qui regarde tout le temps, mais c'est aussi qu'à force, t'as tellement intériorisé le truc que tu t'auto-fliques et tu fliques les autres, quoi. Deviennent plus dangereux, quoi.
En tant que femme, même malgré toute la bonne volonté que moi j'ai ou que toi tu as ou que l'on peut avoir à devenir indépendante, forte et tout, on finit par s'auto-surveiller. Est-ce que je plais? Est-ce que j'ai pas trop pris de poids pendant les fêtes? Bon, ça, je pense qu'après, c'est plus des biais et des conséquences des inégalités qui sont entretenues, parce qu'après ça continue pourtant encore à faire vendre et ça continue à marcher, que les magazines, c'est ça. Je comprends qu'on puisse se faire influencer, mais moi, ce qui me saoule, c'est que derrière, t'as les magazines ou les médias qui continuent de toute manière d'utiliser ça comme pompe à fric et d'utiliser cette soumission, cette influence du corps de la femme, etc., en disant un jour, pendant une semaine, tu vas avoir droit à « faites-vous plaisir, soyez libérés de vos carcans, profitez des fêtes avec vos proches, etc. » Et puis, à la fin du magazine, t'as les 10 trucs à faire pour pas ballonner après les fêtes et pour vite reperdre ce que t'as pu prendre, l'ordre dans lequel tu dois faire cuire ton chapon et ton foie gras parce qu'il faudra que tu serves tes invités, et c'est des magazines féminins. Tu vas pas trouver dans les magazines pour hommes, tu vas pas trouver à la fin la recette du chapon en 3 étapes pour servir à votre grand-mère ou à votre belle-mère.
Parce que hommes, c'est bien connu qu'ils lisent plutôt sur la diplomatie, sur l'économie, sur la politique, des sujets intellectuels et importants.
Je sais que de toute manière, les personnes dont je vais parler ne m'écoutent pas, donc je m'en fous, et puis même si c'est le cas, je m'en fous aussi, mais il y a quelques jours, il y a eu un message sur une discussion d'un groupe de ma famille, une discussion WhatsApp à plusieurs, et il y a une photo qui a été postée des enfants de ma cousine. Un petit garçon, une petite... La petite fille sur la photo faisait une tête un peu triste. Mathilde ?
C'est ma yaourtière, désolée.
Je vais le garder, ça. Il y avait une photo où on voyait ma petite cousine triste, et une autre photo où on voyait son petit frère joyeux entre ses deux oncles qui étaient en train de lever le verre à la main. Et il y a une de mes tantes qui a dit « Oh, elle tire la tête, la petite. Heureusement, le petit lève le verre avec les hommes. Il est là pour participer. » Alors, c'est assez subtil. Bon, je vous connaissais pas le contexte. Les gens connaissent pas le contexte de cette famille, etc. Mais ça m'a fait sourire parce que c'est typiquement ça, ce genre de petite phrase, ces petits rien où on a mis de toute manière le petit entre les deux oncles avec le verre de vin parce qu'il a 3 ans et demi et qu'il a rien compris à ce qui se passait non plus, et que la petite, elle tirait la tronche, qu'elle était malade en fait, et que du coup elle était pas en forme alors qu'elle aurait dû être en forme avec ses tantes, etc., pour les aider à préparer repas ou autre. Ça, je m'en rappelle, ce truc de Noël, mais vraiment, ça m'a marqué à vie, je crois. Le côté, mais pourquoi moi, je dois aller à la messe pendant que les mecs s'amusent ? Et je trouve qu'encore aujourd'hui, bah, comme tu le disais, comme on a démarré, être une femme au moment des fêtes de Noël, parce que c'est la période, j'entends surtout qu'est-ce qu'on va faire à manger pour sa famille ? Est-ce que la petite va avoir la paix et le petit garçon va avoir le jouet ? Dans les magazines de jouets, c'est ça. C'est hyper genré. Dans les magazines pour femmes, c'est de vous allez devoir faire attention à votre ligne parce qu'il faut plaire, parce qu'une femme, ça doit être belle et ça doit être mince. Pourquoi ? Donc, je sais pas. Bonne question. En revient toujours.
Ouais. Et de toute façon, je pense que tu vois maintenant, avec la conscience quand même qui est en train de naître, que c'est pas normal, et avec les revendications qu'il y a, ça peut être amené à changer, mais en fait, ça tient pas que des femmes. Et tu vois, pour penser la féminité autrement, pallier à ces inégalités, je pense qu'il faut aussi que les hommes pensent leur masculinité différemment et qu'eux aussi acceptent de faire des concessions sur leurs privilèges, tu vois. Parce que un système oppresseur opprimé, il fonctionne parce qu'il y a des opprimés et des oppresseurs, mais c'est pas indépendant les uns des autres, tu vois.
J'avais écouté à ce sujet un podcast super intéressant, une émission, je crois, des couilles sur la table. Et un homme expliquait qu'il avait repensé clairement sa masculinité et que depuis l'histoire de MeToo, ça avait sûrement changé pas mal les choses, surtout pour les hommes et de leur perception qu'ils avaient peut-être de leur propre rapport à eux en tant qu'hommes. Et il expliquait... En fait, il a publié une thèse ou un truc comme ça sur le fait que ça fait des millénaires, en fait, enfin des centaines et des centaines et des centaines d'années, que l'homme, en fait, conçoit le corps de la femme comme étant quelque chose que l'on peut accumuler, comme une richesse que l'on accumule, et quelque chose qui s'ajoute comme un capital. Comme à une époque où tu gardais tes chèvres et t'avais du bétail, bah, t'accumules tes femmes, enfin t'accumules tes conquêtes sexuelles. Mmh. Et il était parti de cette discussion-là pour dire qu'en plus de ça, en fait, il y avait quelque chose de plus profond, une peur plus profonde de l'homme, qui était d'être une peur, entre guillemets, de la femme, parce qu'en fait, la femme, elle est créatrice de vie, elle est finalement la mère, je sais pas comment dire, mais elle a un pouvoir sur les hommes qui est tel que ça ferait, entre guillemets, peur aux hommes, et que de fait, il y aurait eu une contrebalance par peur d'être en fait renversée par les femmes. En fait, j'ai très mal expliqué l'histoire.
mais l'idée, peut-être, tu vois, ça pourrait être « reprenons le pouvoir
». Dans l'idée, reprenons le pouvoir, mais entre guillemets... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait d'être une femme ?
Moi, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas qu'une seule femme, comme on disait tout à l'heure, et que chaque femme, en fait, vaut quelque chose, tu vois. Et chaque femme, à partir du moment où tu te dis femme, où tu te sens femme, et tu es légitime à être une femme, et personne, que ce soit la société ou les autres, n'a à te dire que tu n'es pas une femme comme il faudrait, tu n'es pas femme comme il faudrait être femme.
Mais alors, dans ces cas-là, ça veut dire que demain, si une femme te dit « moi, je suis femme en étant soumise à mon mari », comment on doit réagir ? Enfin, est-ce que toi tu te dirais bah ok, alors c'est super, t'es une femme complètement dans ton droit d'être complètement soumise, tu vois, enfin
ah oui, dans ce sens là c'est vrai que dans ce sens là on y pense moins. Je pense que j'essaierai quand même, tu vois, sans injonction et sans lui dire non tu racontes de la merde, mais essayer de lui expliquer que, enfin, ou en tout cas de lui montrer que ben si elle est soumise à son mari, tu vois, c'est pas pour rien. Mais, c'est compliqué. En fait, là où je le pensais, tu vois, c'est plus dans ce côté où on va dire des femmes qui sont pas féminines parce qu'elles ont les cheveux courts et qu'elles mettent pas de jupe, ou les garçons manqués, tu vois. Garçons manqués, c'est quand même la pire expression du monde. Enfin, t'es pas un garçon raté, tu vois. T'es une fille, même si tu joues pas à la poupée et si t'aimes pas le rose, quoi.
Est-ce que tu, du coup, dans la mesure où tu aimerais quand même faire bouger les choses à ta hauteur, toi, ça peut être via le fait de lever tes bras avec tes poils dessous, et dire bah ouais c'est pas un problème, et du coup le fait de dire c'est pas un problème devant les gens et de l'assumer, déjà ça peut peut-être un peu faire réfléchir, mais jusqu'où tu serais capable d'aller pour défendre tes opinions, genre est-ce que tu serais prête à perdre ton emploi pour garder tes valeurs, est-ce que tu serais prête à être insultée pour quitte à assumer jusqu'où, parce que je vois il y a des femmes féministes qui vraiment vont revendiquer des droits etc, et qui vont se faire mais laminer sur la place publique, ou qui vont se faire vraiment critiquées, ou qui vont même se retrouver seules au travail et isolées parce qu'elles auront osé, entre guillemets, ou qu'elles seront un peu mal vues, et du coup, ça sera peut-être pas très bien vu d'être traînée avec elles. Tu serais prête à aller jusque-là et à finalement être plus seule que si t'étais rentrée dans le moule, quitte à au moins être droite dans tes bottes. Moi, là, du coup, je réponds en même temps à ma question, je vais te laisser répondre après. Moi, je pense que clairement, je préfère être seule mais être droite dans mes bottes, et je préfère être seule et être capable de sortir en jogging dans la rue plutôt que de me sentir obligée de mentir et de pas être bien au fond de moi, parce que je sais qu'en fait, si je suis quelqu'un qui ne me correspond pas, les rares fois où j'ai voulu faire la moule, je me rends malade. Ça me tue, en fait. Je peux pas faire semblant.
Ouais, c'est une question très vaste et très complexe. Je pense que ça dépend vraiment des situations, et que par contre, on peut pas forcément en attendre autant de tout le monde. Tu vois, par exemple, tout le monde n'est pas forcément en mesure de perdre son emploi. Genre, t'as des gens vraiment qui survivent pas, tu vois, s'ils ont pas un travail. Oui, en tout cas, oui, dans l'idéal, tu vois, je voudrais
être capable de se mettre à dos,
que porter mes convictions de... ce soit suffisamment fort pour pouvoir dépasser ces problèmes qui sont réels, mais en même temps continuer à porter la voix. Et je pense que si des personnes comme moi sont pas capables de le faire, c'est assez problématique dans le sens où je suis une femme, mais à part ça, tu vois, j'ai quand même énormément de privilèges. Enfin, je veux dire, je suis blanche, mince, d'un milieu quand même aisé. Enfin, tu vois, j'ai énormément de privilèges. Et du coup, je pense aussi que y a des combats qu'il faut mener pour que des personnes qui n'ont pas autant de privilèges que moi puissent aussi mener leurs propres combats, tu vois.
Et que du coup, à terme, l'image de la femme change pour quelque chose de plus sain. Mm. Et encore une fois, c'est délicat de dire ça parce que ça voudrait dire que tout ce qui a existé jusqu'à présent, c'est pas sain. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi de tout ça.
Oui.
C'est compliqué, je trouve, comme sujet. En fait, c'est à la fois intéressant et à la fois très compliqué parce que le rapport que l'on a chacune à la féminité varie énormément déjà par dans quelles circonstances on a grandi, quel recul on a été capable de prendre, quelles expériences on a pu vivre, quel traumatisme on a éventuellement vécu en tant que femme. Et je suis quand même contente aujourd'hui d'être capable de ce raisonnement-là, même si du coup, ça a fait aussi souffrir parce que tu te rends compte de tout ce qui ne va pas. Mais d'un autre côté, je suis contente d'en avoir conscience parce que je me dis que c'est grâce à nous et grâce à cette conscience que l'on a qu'on peut peut-être espérer faire changer des choses à plus grande échelle.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Si tu n'es pas en colère, c'est que tu ne regardes pas assez. » Et je trouve que ça résume bien ce truc de c'est pas forcément agréable de voir toutes ces inégalités, tous ces trucs injustes, mais le fait de le voir, c'est aussi une possibilité de le changer.
C'est très joli comme phrase, donc soyons en colère, je crois, un petit peu.
Ouais. Et osons le dire très fort.
Osons le dire très fort. Bon, en tout cas, merci pour cet échange très intéressant sur la féminité.
Merci à toi.
C'est parti en cacahuète encore, comme d'habitude, mais c'est intéressant.
Mais non.
Et écoutez, faites à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et si vous avez des retours à nous faire sur ce grand déballage de femmes, de poils, de féminité et d'éducation sexuelle, n'hésitez pas. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.